Il est enseignant à la faculté de médecine de l'Université Laval, fait partie également du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université Laval. Pierre Guertin, bonjour.
Oui, bonjour.
On parle donc d'une recherche qui est menée depuis quelques années dans le but de trouver un médicament qui pourrait faire marcher les personnes paraplégiques. Ça me semble ambitieux, voire, mon Dieu, life-changing, là, révolutionnaire. La recherche est en péril, cependant, nous disait Le Soleil il y a quelques semaines, faute de participants. Peut-être nous parler un peu de comment vous est venue l'idée, vous, là, vous les membres de l'équipe, que oui, ce médicament-là pourrait éventuellement peut-être redonner vie à quoi? Des nerfs, des muscles?
Bien, c'est une trithérapie qui en fait... qui ne répare pas la moelle épinière selon les expériences qu'on a fait chez les animaux, mais ça vient réactiver des neurones de la moelle épinière de la région lombaire. Ce sont des neurones, des cellules nerveuses qui ont comme rôle chez vous comme chez moi de contrôler l'essentiel de la marche, donc l'ensemble des signaux électriques provenant du système nerveux puis envoyés jusqu'à nos muscles pour exécuter la marche. Et ce qu'il fallait savoir dès le départ, c'est que c'est pas largement connu, c'est que ces neurones-là sont épargnés dans la plupart des cas de blessures à la moelle épinière, parce que ces blessures-là, généralement, sont au niveau cervical ou thoracique, qui fait que on va les appeler les neurones locomoteurs de la région lombaire, sont épargnés dans la plupart des cas, et ça devient un peu comme un réseau de neurones dormants. Donc, c'est un peu pour ça que les gens ne marchent plus après une lésion à la moelle épinière. C'est pas tellement à cause de la lésion, c'est parce que ces neurones-là, en l'absence de signal déclencheur normalement venant du cerveau, ben, ils deviennent comme endormis dans une période d'attente. Ouais. Donc, le projet dès le départ, c'était, sachant ça, c'était relativement simple. Dans le principe, c'était tenter de trouver des molécules qui viennent réactiver sur demande ces neurones-là afin de produire des épisodes de marche plusieurs fois par semaine et ainsi avoir un entraînement physique sur tapis roulant.
Est-ce que c'est le genre de... je vais poser ma question différemment.
Oui.
Selon ce que vous savez, si ça s'avérait... quel serait le pourcentage des personnes paraplégiques qui pourraient profiter de ce médicament-là ou de cette trithérapie-là?
Bien, selon nos expériences chez les animaux, puisqu'on utilisait un modèle animal avec une transection complète de la moelle épinière, là, ça marche merveilleusement bien chez des sujets donc qui ont une paralysie complète sous le niveau de la lésion, donc que ce soit une paraplégie ou une tétraplégie. Par contre, on ne sait pas de façon claire s'il y a des bonnes chances que ça fonctionne chez des gens qui sont lésés d'une façon incomplète. Donc, par exemple, dans le jargon, on appelle ça des individus qui ont une lésion de type ASIA-C ou ASIA-D sont capables un certain contrôle de leur musculature sous le niveau de lésion. Chez ce type de patient-là, on n'est pas sûr que ça pourrait fonctionner. Par contre, chez ceux qui sont vraiment...
plus hypothéqués.
Oui, qui ont une blessure sévère de type ASIA A ou ASIA B. Ceux-là, on a toutes les évidences qui nous permettent de penser que ça marchera aussi bien que chez les animaux. Parce qu'en fait, la moelle épinière, c'est la région du système nerveux central qui est la mieux conservée d'une espèce à l'autre.
Ah ouais,
c'est
okay.
C'est vraiment les parties supérieures du cerveau qui ont évolué d'une espèce à l'autre au fil de l'évolution, mais la moelle épinière, à toute fin pratique, on a la même moelle épinière que chez les poissons.
Okay.
Ça n'a pas changé. Fait que si ça a marché chez les rongeurs et on a essayé aussi des tortues,
ouais,
ben, il y a toutes les raisons de penser que ça pourrait marcher chez l'humain.
Mais Pierre, vous incluez même les personnes tétraplégiques?
Oui, tout à fait.
Wow!
Tout à fait. Parce qu'il est possible d'utiliser à notre avantage, qui est disponible déjà sur le marché pour soutenir ces patients-là dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il existe maintenant des tapis roulants, on le sait, mais avec un appareil qu'on vient joindre à ça qui supporte avec un harnais le corps de l'individu.
Mm-hmm.
Donc, avec ça, on peut... On peut penser quand même placer des individus sur un tapis roulant, ensuite, en moins de 15 minutes après l'administration du traitement qui se fait par voie orale, un comprimé, les jambes pourraient se mettre à marcher de façon stéréotypée et involontaire toutefois. Donc, ça ne permet pas un recouvrement de marche volontaire et autonome, mais c'est plutôt une marche, entre guillemets, réflexe et stéréotypé.
OK, mais il faut commencer quelque part.
Oui.
J'ai envie tout de suite, parce que c'est finalement le manque de candidats qui est la raison de cet entretien. On ne veut pas que autant les millions que les découvertes et le potentiel, finalement, retournent dans les... sous le boisseau.
Oui.
Je lisais dans le texte qu'on avait besoin de 36 candidats. Ça m'apparaît bien peu pour quelque chose d'aussi important. Comment se fait-il que vous manquiez de candidats?
C'est une bonne question. Je pense que ça a un lien avec le fait que ces gens-là sont souvent de retour à la maison après quelques semaines en centre de traumatologie et après ça, 2-3 mois en centre de réadaptation. Après ça, ces gens-là sont de retour à la maison et il n'y a pas nécessairement de listing des coordonnées de ces gens-là, même s'il y en avait, pour des raisons éthiques, on ne les transmettrait pas de toute façon. Donc, la seule façon de rejoindre ces gens-là pour nous, pour notre étude, c'est de soit via des articles dans les journaux, mais c'est très coûteux.
Ou espérer peut-être
pas
que...
Pas des articles, mais je veux dire des publicités.
Mais le centre de réadaptation pourrait peut-être aussi approcher les gens dans leur banque de clients, là.
Oui, on est sur le point d'arriver avec une entente avec le centre de réadaptation de Trois-Rivières qui s'appelle l'Intervalle. Ça doit encore passer devant un comité d'éthique local. Mais oui, c'est des moyens qui sont explorés.
Ouais. Pierre, il me reste plus beaucoup de temps, puis je veux vraiment... Donc, vous avez besoin d'un profil particulier, c'est ce que je comprends.
Oui, des hommes et des femmes qui ont une blessure traumatique, donc suite à un accident de voiture, de sport, des chutes. Des gens qui ont une paralysie complète sous le niveau de la lésion, comme je disais tantôt. Aucun contrôle des muscles sous la lésion. Des adultes, pas d'enfants, pas de vieillards, donc entre 18 et 65 ans. Des résidents de la province de Québec, donc partout au Québec, les gens sont invités à appeler le docteur Radhakrishna pour s'inscrire. Puis ce qu'on appelle des blessés chroniques, c'est-à-dire pas des gens qui sont nouvellement blessés, mais ceux qui sont blessés depuis au moins 3 mois. Ça veut dire à peu près, là, ça peut faire 10 ans que les gens sont blessés, il n'y a pas de souci.
Que sait-on des effets secondaires jusqu'à maintenant? Parce que c'est toujours la peur lorsqu'on s'implique dans une recherche.
Oui, mais en fait, comme je disais, c'est une trithérapie, mais composée de deux médicaments, le Buspar et le Sinemet, qui sont déjà approuvés par Santé Canada. Donc, oui, il y a des effets secondaires comme pour tout médicament.
Mais répertoriés.
Répertoriés et approuvés par Santé Canada. Ce n'est pas des choses intolérables. Par exemple, il peut avoir des nausées de créer. Parfois, ça peut arriver quelqu'un qui souffre de vomissements une fois ou deux, surtout dans les premières semaines, si quelqu'un le prenait de façon répétée. Mais c'est quelque chose de connu et ça disparaît. Donc, ça nous est arrivé une fois, un patient qui a eu un peu de nausée, qui a eu un vomissement, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas agréable, mais c'est pas quelque chose d'inquiétant.
Et en terminant, je disais que vous étiez membre de l'équipe de recherche au centre hospitalier de l'Université Laval. Est-ce que faut se déplacer à Québec?
Non, l'étude a lieu à Montréal, à l'Hôpital général de Montréal. C'est une seule journée, donc c'est un test qui ne dure que quelques heures et les frais de déplacement ou d'hébergement sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 $. Et le numéro de téléphone à appeler, très important, c'est le 514, donc dans la région de Montréal, le 934-1934, puis c'est le poste 44-185.
OK, et si vous avez manqué, là, vous allez sur la page de Accès Libre. Et tout sera sur place et facilement accessible. Merci beaucoup, Pierre Guertin.
Bien, merci à vous.